Chacun l'a compris, nous vivons une bascule du monde. Le début du deuxième mandat de Donald Trump bouscule d'abord les alliés historiques des États-Unis et fait des concessions à la Russie de Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Comment l'UE fait-elle face à une géopolitique en redéfinition ? Pour répondre à la faveur du PDSF, nous avons la chance de recevoir Chantal Lavallée, professeure agrégée en études internationales et directrice du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise au Collège militaire royal de Saint-Jean, au Canada. Spécialiste de l'UE, Chantal Lavallée détient un doctorat en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Bonjour Madame la professeure Chantal Lavallée. La relance de la guerre russe en Ukraine a maintenant plus de 3 ans. Pour l'Union européenne, que vous observez depuis le Canada et en venant régulièrement dans l'Union européenne, bien sûr, quel a été l'effet géopolitique le plus étonnant de cette guerre ?
Bien sûr, d'abord, merci beaucoup de m'inviter à cette émission. Cette guerre, on peut le dire, a été remplie de plusieurs rebondissements. Il faut savoir, effectivement, c'est finalement une guerre qui s'inscrit dans la durée. Maintenant, le changement, je pense, incontournable qu'on vit tous actuellement, c'est le repositionnement des États-Unis face à cette guerre en Ukraine, normalisation des liens avec la Russie de Poutine, ce qui change la donne fondamentalement. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que malgré tous ces rebondissements, dès le départ, c'est le retour de la guerre en Europe, ce qui marque les esprits et qui choque évidemment les Européens. Mais pour l'Union européenne, c'est évidemment le choc de la réalité. Une union qui est d'abord créée, pensée, conçue pour maintenir la paix, la stabilité dans un contexte post-deuxième guerre mondiale. On veut lier les économies, créer un espace de paix.
Finalement, la guerre a été un espèce de catalyseur, d'accélérateur.
Tout à fait. On l'avait vu d'une part avec le Brexit et le premier mandat de Trump où il y avait déjà une relance. Donc, en soi, la relance, elle n'est pas nouvelle. Mais l'accélération, puis également l'acceptation que l'Union européenne peut être aussi une union politique capable de prendre des positions en matière de défense, soutenir un pays en guerre, lui offrir même la perspective de l'adhésion, mais surtout permettre l'envoi d'équipements militaires, qui est permis par les États membres, mais grâce à un soutien, un accès au financement européen.
Vu du Canada, ça a été un peu une surprise de voir l'Union européenne évoluer sur ce chemin-là, non?
Une surprise peut-être modérée, dans la mesure où, effectivement, de l'extérieur, l'Union européenne et particulièrement du Canada, c'est d'abord et avant tout un partenaire économique, pas aussi important que notre partenaire du Sud, les États-Unis, mais n'empêche qu'il a l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, donc c'est d'abord un partenaire économique, mais dans les dernières années, la relation étroite a bien permis de voir l'évolution, ne serait-ce que déjà au tournant des années 2000, la politique étrangère et de sécurité commune qui se met en place, qui permet des missions civiles et militaires auxquelles le Canada peut participer avec un accord et un partenariat stratégique qui met en place. Donc, le Canada voit bien l'évolution depuis une vingtaine d'années de l'Union européenne.
Professeur Chantal Lavallée, vous l'avez rappelé, la communauté économique européenne a d'abord été pensée pour faire la paix et un marché commun. Longtemps, la défense a été un tabou. Et comment la guerre russe en Ukraine a-t-elle finalement obligé la Commission européenne à mettre fin au tabou européen en matière de défense ?
Excellente question. En fait, le tabou n'est pas tant venu d'un malaise de la Commission elle-même plutôt que des États membres à l'accepter. Évidemment, si on regarde les traités, la Commission européenne n'a pas et toujours pas à ce jour de compétences en matière de défense, de sécurité de défense. Proprement parler. Pour avoir fait ma thèse de doctorat sur cette question-là, on voit que dès les années 90, la Commission européenne veut utiliser ses domaines de compétences, que sont le marché, la recherche, sa capacité réglementaire, pour permettre l'ouverture du marché européen des équipements de défense. Donc, il y a déjà un premier paquet défense adopté en 2009, où la Commission va trouver les portes d'entrée sur le secteur de la défense, mais toujours en restant sur ses compétences. Il faut, je l'ai mentionné rapidement avec le Brexit, attendre donc quelques années pour voir peut-être de fenêtres d'opportunité s'élargir davantage avec le Fonds européen de défense, avec plusieurs opportunités, avec le départ des Britanniques, il faut le dire, en matière de défense, où les États membres européens vont être beaucoup plus enclins à écouter, à accepter les propositions de la Commission européenne, qui vont voir le jour progressivement à partir de 2016. Et effectivement, avec la guerre en Ukraine, l'opportunité est présente d'utiliser les leviers d'action. Et on l'a vu encore avec la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, la semaine dernière, avec le Rearm Europe, un plan de défense qui, sur les leviers d'action de la Commission européenne, peut permettre aux États qui voudront d'aller chercher des leviers d'action pour développer les capacités, poursuivre la recherche dans des partenariats et surtout alléger le fardeau fiscal permettant une pause sur le pacte de croissance stabilité, permettant aux États qui souhaitent de s'endetter si c'est pour investir dans la défense européenne.
Ce qui là aussi est un tabou, c'est la question de la dette, c'est très important. Il faut souligner que Mme von der Leyen est allemande. Les Allemands ont, comme chacun sait, une relation complexe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à la puissance. Et pourtant, c'est une Allemande qui a fait le tournant en 2019 d'une commission européenne géopolitique et à qui le destin, en admettant que ce mot soit à retenir, a donné finalement la charge de faire face au retour de la guerre en Europe, comme vous le disiez. C'est très étrange.
Oui et non. Ça peut paraître étrange. Il ne faut pas oublier que Mme von der Leyen a occupé plusieurs positions en Allemagne, dont le poste de ministre de la Défense. Et donc, je pense qu'elle a déjà cette sensibilité, cette compréhension des enjeux. Et elle est arrivée à un moment charnière pour l'Europe, avec une période, le Brexit, la première présidence de Trump, et une volonté des Européens, face aux pressions de Trump déjà au premier mandat, d'agir sur les questions de défense européenne. Et je pense qu'elle a saisi la balle au bon. Et maintenant, elle voit bien que les leviers que peut offrir la Commission européenne sont matière à être débloqués parfois les coopérations européennes en matière d'industrie de défense, de coopération, développement capacitaire, mais aussi la recherche avec le Fonds européen de défense qui permet justement de consolider certains domaines en Europe.
Et puisqu'on parle de Mme von der Leyen, on peut aussi parler de Mme Kaja Kallas, qui est estonienne, si je ne me trompe pas, et qui est en charge du poste de haute représentante pour la politique étrangère et la sécurité commune. Vous avez une perception du personnage et de ses prises de position?
Je pense qu'effectivement, c'est aussi un message qui a été envoyé par le changement de garde, si on peut dire, au niveau européen, et d'avoir choisi déjà une femme. Je pense que c'est aussi porteur d'un message. Puis Mme Kallas a tout un parcours aussi dans son pays. Première ministre, si je ne me trompe pas, première femme, première ministre, avec une vision assez claire. Et elle a été très ferme dès le départ de sa perception de la menace russe, de l'importance de soutenir l'Ukraine, avec tous les moyens à la disposition de l'Union européenne. Et je pense que c'est sur ces bases qu'elle a été choisie. Et on voit les différentes tentatives. Encore récemment, ses visites aussi à Washington pour rencontrer son homologue en vain, mais de vraiment aller utiliser tous les recours à sa disposition pour être proactive sur ce sujet.
Chantal Lavallée, les traités de Maastricht en 1992 et de Lisbonne en 2007 ont organisé les relations UE-OTAN. C'est presque écrit noir sur blanc. À cet instant, 23 des États membres de l'UE sont aussi membres de l'OTAN, qui elle-même compte 32 membres. Et pourtant, dans le contexte de la guerre russe en Ukraine, le début du deuxième mandat de Donald Trump place la dynamique des relations UE-OTAN dans une forme de tourmente. Pourquoi ?
La réponse simple serait de dire par l'approche de Donald Trump. Dès son premier mandat, il y avait énormément de pression sur les alliés européens, pas que européens, on voit aussi sur le Canada, pour augmenter les investissements en matière de défense, d'aller bien au-delà, déjà d'atteindre le 2%, mais d'aller au-delà. Donc, évidemment, l'approche de Trump, les menaces de quitter l'OTAN, de la remettre en question. Mais vous avez raison qu'avec l'adhésion de la Finlande, de la Suède à l'OTAN, l'Union européenne gagne en force au sein de l'OTAN. Donc, il y a l'option, soit on la met de côté parce qu'il y a les blocages ou peut-être les défis que pose l'administration Trump, ou les Européens ont là toute une opportunité, y compris avec le Canada qui fait aussi partie de l'OTAN, donc c'est l'enceinte où on s'y retrouve, d'utiliser les moyens de l'OTAN pour justement asseoir la coopération. Et j'aimerais mentionner qui a eu quand même beaucoup d'avancées dans les dernières années sur la relation Union européenne-OTAN, avec des déclarations conjointes qui semblent banales, mais qui sont exceptionnelles dans la mesure où on est au niveau des institutions pour élargir des domaines de coopération qu'on dit techniques dans des secteurs où on peut s'entendre pour travailler ensemble. Et malgré des blocages, entre autres, de la Turquie à répétition sur la coopération politique entre les deux organisations, on est rendu à 3 déclarations conjointes, une réaffirmation dans la boussole stratégique côté Union européenne et dans le concept stratégique de l'OTAN, d'un rôle complémentaire, de l'importance du partenaire stratégique entre les deux organisations. Et on a vu dans les rencontres des dernières semaines, le secrétaire général de l'OTAN invité à toutes ces rencontres pour faire partie justement de cette position adoptée face à la situation, tant dans la gestion du conflit en Ukraine que de la réorientation, pour le dire pour le moment, de cette façon, de l'administration Trump. Donc, il y a les moyens réels de garder une coopération efficace au sein de l'OTAN. Et dernier point, on a reparlé à nouveau, même si on avait parlé beaucoup dans les années 90, d'une identité européenne, d'un pilier européen au sein de l'OTAN qui a pris différentes formulations, mais simplifions en regardant la formule classique d'un pilier européen au sein de l'OTAN. Et pour reconstruire ce que vous avez dit, 23 États de l'Union européenne, membre de l'OTAN sur 32, c'est une force. Si les États-Unis veulent être la locomotive, cette force, elle peut être de soutien, de cohésion. Si les États-Unis en font défaut, c'est là peut-être une belle opportunité pour l'Union européenne de prendre aussi d'utiliser l'OTAN aussi pour atteindre les objectifs. Ou encore là, le Canada est membre à part entière et avec les outils à disposition de l'OTAN.
On sent qu'on est dans un moment de bascule, de remobilisation des esprits. On se compte, et le Canada et l'Union européenne ont des choses à faire ensemble, possiblement, notamment en matière de défense.
Tout à fait. Ils l'ont déjà fait en signant cet accord, déjà le partenariat stratégique, mais l'accord qui permet au Canada de contribuer aux missions de la PSDC. Mais bien au-delà de tout ça, je pense que le contexte actuel, puis c'est peut-être la touche canadienne que je peux rajouter aujourd'hui, cette menace directe que pose sur le Canada l'administration Trump, avec ce qui était au départ une très mauvaise blague, mais qui s'inscrit dans la durée et qui devient de plus en plus menaçante, concrète. On parle même de remettre en question des traités historiques qui identifient, qui délimitent la frontière entre les deux pays. Et donc ça, on le vit directement avec une certaine perplexité, étonnement. Mais côté européen, on voit aussi les menaces similaires face au Groenland pour aller chercher, avoir accès à des minéraux critiques et des ressources naturelles. Donc ça, c'est un enjeu qui peut certainement rapprocher Canada et Union européenne.
Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise.
Chantal Lavallée, la guerre en Ukraine a notamment pour résultat une utilisation massive des technologies émergentes que sont les drones. Quel est l'impact pour l'Union européenne?
Déjà, il y a énormément de choses à dire. On en a beaucoup parlé, comment les drones, l'utilisation des technologies émergentes ont eu un impact sur le cours de la guerre, ont permis à l'armée ukrainienne, qui se retrouve dans un conflit asymétrique, de pouvoir quand même avoir un impact sur le terrain. L'intérêt pour l'Union européenne, mais c'est aussi la crainte, c'est de voir l'utilisation possible de drones commerciaux, civils, transformés en armes de guerre. Dans mes recherches plus récentes, je me suis particulièrement intéressée à un cadre réglementaire sur l'intégration des drones, l'utilisation des drones en Europe. Et pendant longtemps, on voyait le drone justement dans tout le potentiel économique de l'intégrer dans la vie de tous les jours avec un cadre réglementaire civil. Le drone a toujours été une technologie duale, d'abord développée et utilisée par les militaires. Et je pense que l'utilisation importante, déterminante, qui en est faite en Ukraine, ramène cette dimension duale. Puis l'Union européenne l'a bien compris. On a aussi maintenant une stratégie qui considère les drones dans toute sa complexité. Mais je pense que l'impact, c'est aussi cette prise de conscience aussi en termes de sécurité intérieure pour l'Union européenne, d'un usage avec toujours une menace terroriste qui plane, de voir le potentiel de ces technologies émergentes, qu'elles soient aussi inoffensives qu'un drone civil, commercial qu'on peut acheter chez Carrefour, transformé en une arme de guerre assez déterminante.
Et ici aussi, la guerre russe en Ukraine a été un accélérateur, parce que je me souviens souviens, voici une dizaine d'années, avoir assisté à l'école militaire à une conférence sur les drones, et on voyait des militaires français qui, à la tribune, faisaient mine de se faire des nœuds dans la tête sur les règles d'usage des drones, expliquant que, historiquement, depuis des siècles, voire davantage, un soldat était autorisé à tuer parce qu'il était lui-même exposé au risque d'être tué, et que l'usage du drone permet de tuer à distance sans prendre de risque, et qu'il y avait donc une rupture éthique extrêmement importante. On se faisait des nœuds dans la tête, on se fait plus ces nœuds dans la tête désormais, me semble-t-il. Au contraire, on en est à se demander s'il y a des choses à apprendre des Ukrainiens. Est-ce qu'on va vers la production de drones en Ukraine ou l'usage du savoir des Ukrainiens pour les drones que les Européens ou d'autres utiliseront?
Déjà, il y a deux aspects. Je vais essayer d'être très brève, mais l'enjeu éthique va toujours demeurer. Je pense que le rapport de ces technologies avec l'être humain doit toujours être considéré dans une perspective éthique, légale, du droit international, d'éviter les abus. En fait, tous ces enjeux discutés, vous avez raison, depuis une dizaine d'années, étaient sur, par exemple, les assassinats ciblés, donc l'utilisation par les Américains dans des pays avec lesquels ils n'étaient pas officiellement en guerre, de l'utilisation de ces technologies pour faire la guerre à distance. Donc, ça soulevait des enjeux qui ont été modulés maintenant dans le contexte de la guerre en Ukraine parce qu'on y voit un impact à la faveur des Ukrainiens sur le rapport de force sur le terrain. Donc, on a peut-être, mais je pense qu'il faut toujours garder en tête cet aspect-là. L'autre aspect que je veux soulever, ce qui est particulièrement intéressant puis fort d'apprentissage, c'est la mobilisation citoyenne en Ukraine. On a vu plusieurs citoyens, oui, aller au combat, mais aussi contribuer à l'effort de guerre en transformant eux-mêmes dans leur maison des drones civils pour les mettre à disposition des militaires. Et on a vu cette mobilisation citoyenne aussi ayant un impact à travers cette expertise sur des technologies dans l'utilisation sur le terrain, le champ de bataille.
Avec un lien entre l'arrière et le front, et plus largement, c'est la question de la nation. L'Ukraine a fait nation dans cette affaire.
Tout à fait, parce qu'en mobilisant les citoyens, les non-combattants, de toute façon, la guerre a pris une proportion telle. On le voit, l'enjeu de garder l'armée en nombre significatif sur le terrain, le problème de la fatigue des militaires qui sont déployés avec peu de repos depuis maintenant, on commence la quatrième année. Et donc, ça, c'est un aspect. Mais donc, on a vu cette mobilisation citoyenne prendre plusieurs aspects. Donc, pas juste le déploiement sur le terrain militaire, mais effectivement, avec l'utilisation des drones, on a vu mettre à contribution donc, des citoyens de différentes façons, ce qui transforme aussi, qui crée, comme vous avez dit, l'identité nationale et l'unité, mais qui aussi transforme cette conception. Et c'est pour ça qu'à plusieurs égards, la guerre, avec l'utilisation des technologies émergentes, mais la contribution citoyenne et toutes ces facettes marquent particulièrement cette guerre duquel il y a beaucoup d'apprentissages positifs et autres, mais un intérêt certes particulier pour les universitaires que nous sommes.
Vous avez participé dans le cadre du PDSF à une table ronde « Repenser les alliances européennes et transatlantiques ». Est-ce que vous pourriez partager avec nous ce que vous avez retenu de cette table ronde ?
Oui, une table ronde, je pense, plutôt consensuelle, parce que je pense que le constat est là aussi de dire, le titre était de repenser. Je pense que souvent, on veut réinventer la roue. On se rend compte qu'on a déjà des structures, des moyens à disposition qu'on peut certainement mieux utiliser, mieux exploiter. Ce qui ressortait, je pense, c'était l'inclusion du Royaume-Uni, du Canada, donc des partenaires qui ne sont pas nécessairement dans l'Union européenne, d'où l'intérêt de l'OTAN à trouver une façon de mobiliser l'OTAN dans un contexte qui sera de plus en plus difficile avec la position de la présidence Trump. Mais je pense que les discussions font ressortir toutes les initiatives des dernières années dans le cadre de l'Union européenne qui peuvent certainement maintenant contribuer ou faire partie de la solution à la guerre, je ne sais pas, mais de la réflexion pour mettre fin à cette guerre de façon juste pour les Ukrainiens, donc pas dans un processus de paix qui va les exclure, mais aussi dans le processus de rétablissement de la stabilité en Ukraine avec les moyens européens transatlantiques.
Chantal Lavallée, nous n'en sommes qu'au début du deuxième mandat de Donald Trump. Avec les risques d'erreur qui vont avec une situation aussi fluide, quelles sont pour vous les perspectives d'une Union européenne sans le soutien politique et militaire des États-Unis si ça venait à arriver?
C'est le grand défi. On est quand même, puis je m'étonne moi-même d'avoir à le dire, mais je l'ai tellement entendu dans les dernières semaines, qu'on commence une nouvelle ère, qu'on a un point de rupture, qu'on est dans un point tournant. C'est quand même historiquement surprenant de voir les États-Unis se désintéresser, s'éloigner, se détourner déjà de l'Union européenne comme construction qu'ils ont soutenue dès le départ, qu'ils ont encouragé Jean Monnet le premier à poursuivre dans cette direction, une façon de gérer le plan Marshall, de répondre aux intérêts nationaux de ces sécurité nationale des États-Unis, devoir s'en détourner. Je pense que c'est le grand défi pour l'Union européenne, d'où le fait qu'on voit se mobiliser en fait tous les acteurs, autant de la Commission européenne que des États membres, pour peut-être répondre à ce défi, parce que c'est pas simplement de mettre en place une défense européenne, mais moi, mon inquiétude, si je le ramène d'un point de vue plus personnel, de voir l'évolution des choses, cette normalisation entre les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine, c'est de changer la donne géopolitique en Europe, parce que c'est pas simplement de mettre fin à la guerre en Ukraine, mais de faire face à maintenant une Russie qui se voit normalisée, soutenue par ce qui était le partenaire clé de l'Alliance Atlantique. Dans ses ambitions de grandeur en Europe. Et donc, même si, après un temps, la Russie doit arrêter cette guerre pour ne serait-ce ravitailler son armée, prendre une pause, le risque est là de revenir en force. Et je pense que les craintes en ce moment sont tout à fait réelles de voir une menace revenir dans les prochaines années, parce que le discours de Poutine a été normalisé. L'annexion de la Crimée, l'invasion de l'Ukraine, dénoncée par tous au regard du droit international, est banalisée par la présidence Trump, grande puissance de ce monde, qui a été un allié fidèle jusqu'à ce jour, avec toujours des variations. Il ne faut pas idéaliser le passé. Il y a eu plusieurs désamours aussi, mais jamais un point de rupture. Et si on arrive à ce point de rupture, les Européens doivent vraiment se positionner en force, avec le Canada et le Royaume-Uni, très certainement, dans un cadre solide, fort pour faire face dans, et c'était mon propos aussi de ce matin, à court terme, mais dans le long terme, d'où cette dynamique, je pense qu'au niveau européen, des États membres qui ont cette capacité à court terme de répondre, mais de l'Union européenne de les accompagner à moyen et à long terme avec des moyens financiers et réglementaires qui vont permettre d'asseoir cette coopération dans la durée. Parce que malheureusement, je pense que les défis auxquels on fait face actuellement risquent de s'installer dans le temps avec, on voit déjà une donne internationale bouleversée et cette coopération-là doit être repensée donc le plus longtemps possible avec les États-Unis, mais dans le contexte actuel, être pensée de façon autonome. Cette fameuse autonomie stratégique qui va revenir en force, un discours appuyé, je pense, très certainement par les partenaires de l'Union européenne.
L'autonomie stratégique, il ne suffit pas d'en parler, il faut le faire. Et ça, c'est plus compliqué. De votre expertise, quels sont les pays de l'Union européenne ou de l'Europe géographique qui ne sont plus dans l'Union européenne, je pense au Brexit, ou de l'OTAN, je pense au Canada, qui sont presque des pivots, des pays vraiment appui de cette réponse qui doit être faite à la nouvelle situation?
Le cliché, puis on est quand même toujours dans le vrai, c'est évidemment le couple franco-allemand. Il est le moteur, si j'ai bien compris la question, toujours, hein, c'est quels sont les pays. Je pense qu'on est sur le couple franco-allemand qui doit quand même apprendre à bien mobiliser les partenaires. Mais à partir du moment où le partenaire de la France, le partenaire allemand, a fait une mutation phénoménale au regard de sa position sur les questions de défense.
Et est-ce on que vous le voit pouvez encore l'expliquer, cette mutation?
Oui, tout à fait. Mais on l'a vu justement encore là, le catalyseur de la guerre en Ukraine, de voir la guerre revenir sur le continent, aux portes de l'Europe. Déjà, le chancelier Schulz avait mis fin à cette politique de retenue de l'Allemagne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'ambition donc d'injecter 100 milliards d'euros sur 5 ans pour donc atteindre le 2%. et le chancelier élu qui est en train de former la coalition. Donc, il faut voir au moment du gouvernement formé, mais le discours est déjà encore plus percutant dans cette direction de justement remettre en question les contraintes budgétaires fiscales en Allemagne pour permettre d'investir massivement dans la défense aussi.
Merci Chantal Lavallée. Un grand merci également à notre réalisateur Cédric Coba. Planisphère recevait Chantal Lavallée, professeure agrégée en études internationales et directrice du Centre sur la gouvernance militaire et de crise au Collège militaire royal de Saint-Jean au Canada. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.